Radio Capine, grand témoin.
Il est professeur de linguistique et de la littérature africaine à l'université de Gand en Belgique. Django Senzara Kabuta est l'invité de grand témoin.
Tatu Kabuta Bish, Dimudi Nishan, Dimusang, Wakula, Kuyikek, Kunen, Marimatessa.
Au cours de cette émission, professeur Jean Kabuta, nous ferons le point des langues africaines, puisque c'est votre spécialité, mais commençons par parler de vous. En 1947, vous voyez le jour à Kamina, c'est dans la province du Katanga. C'est quand la dernière fois que vous vous y êtes rendu?
Attendez, je crois que je m'y suis rendu la dernière fois dans peut-être en 1985-86. Et j'y avais été en 80, et puis j'y suis retourné quelques années plus tard. Donc il y a déjà quand même un certain temps que je n'y ai plus été.
Et pourquoi?
Parce que je n'ai plus eu l'occasion. Je dois dire que j'ai développé mes projets davantage sur Mbujimayi et sur Kinshasa, et je n'ai plus eu l'occasion de les à Kamina, de sans plus que j'y ai de moins en moins de famille. C'était essentiellement pour cela que j'y allais, quoique j'y sois naturellement affectivement attaché. Et je me souviens que quand j'y étais en 1980, j'avais été profondément ému.
Mais en 1958, c'est-à-dire à 11 ans, vous arrivez en Belgique comme troubadour du roi Baudouin. Expliquez-nous ce terme et cette aventure.
Eh bien, il faut peut-être commencer un peu plus tôt. J'habitais donc Kamina et j'appartenais à une petite chorale. Il y avait deux chorales dans cette ville. Alors, quand on était assez bon, on pouvait accéder à la grande chorale. Et j'ai eu l'occasion, donc peut-être en 1956, d'être admis dans la grande chorale qui s'appelait les Troubadours.
À 9 ans déjà.
Oui, c'est ça. Et c'était tout à fait impressionnant. Je me souviens que le premier jour, quand je suis entré dans cette salle, dans la salle où les enfants étaient en train de chanter, ils chantaient tellement bien que j'avais l'impression d'entendre pour la première fois chanter. Et je me suis dit, tiens, si le ciel existe, ça doit être quelque chose de ce genre. J'étais complètement bouleversé par la musique que j'entendais. Donc, cette chorale s'appelait les Troubadours. Puis, lors du voyage d'un monseigneur belge, je ne suis pas sûr de son nom, peut-être qu'il s'appelait Buffen, si je ne suis pas tout à fait sûr, qui a été autant que moi impressionné par les qualités du travail que faisaient les enfants, il a eu la bonne idée de demander à la famille royale belge si cette chorale pouvait porter le nom du roi. C'est ainsi que nous sommes devenus les troubadours
du roi Baudouin. Et vous vous êtes retrouvés comme ça en Belgique à 11 ans.
Oui.
Alors, comment un jeune Congolais de 11 ans vit-il l'expérience d'arriver en Belgique avant l'indépendance de son pays?
Eh bien, c'est une expérience tout à fait exaltante. Tout d'abord, il faut vous rendre compte qu'à l'époque, la Belgique, l'Europe, c'était quelque chose de tout à fait irréel. On savait bien que les Européens venaient de là, mais nous, en tant que gosses, surtout gosses d'une petite ville provinciale, on n'aurait jamais imaginé un jour mettre les pieds là-dedans. De plus, il y avait un tel clivage entre les deux sociétés, la société blanche et la société noire. On imaginait les blancs comme
des anges
qui se présentaient. C'était des êtres intelligents, ils étaient beaux, ils étaient riches. Et puis, ils nous retrouvaient tout à coup dans leur pays. C'était tout à fait étonnant. En même temps, c'était une très grande révélation. Parce que là, nous avons eu l'occasion de rencontrer des hommes. Je veux dire que tant que nous étions en Afrique, on avait l'impression d'être face à des gens qui étaient un peu au-delà parce qu'ils se présentaient comme tels. Ils étaient supérieurs, leur langue était meilleure, etc. Or, nous arrivons là, nous trouvons des hommes tout à fait accueillants, tout à fait agréables, tout à fait humains. Et là, c'était une belle révélation, surtout à cette époque, avant l'indépendance, on constatait en tout cas que les blancs ne sont pas plus blancs, ce sont des hommes.
Donc, c'est à la faveur d'une tournée des troubadours du roi Baudouin que vous arrivez en Belgique.
Eh bien, nous avons été invités à l'exposition universelle de Bruxelles, Expo 58, et donc nous sommes allés là pour une durée de 6 mois, et durant ces 6 mois, nous chantions presque tous les jours au pavillon congolais, mais quand nous n'étions pas à l'exposition, nous faisions des tournées en Belgique. On a beaucoup, beaucoup chanté, on a fait des dizaines et des dizaines de concerts. On ne s'est pas d'ailleurs limité à la Belgique, on est allé jusqu'en Allemagne, on est allé jusqu'en Hollande. Donc c'était six mois de musique, de tournée.
Vous restez en Belgique jusqu'à ce jour et vous adoptez la nationalité belge. Que pensez-vous de la double nationalité?
Eh bien, je crois que c'est une chose qu'il faut s'empresser d'introduire. C'est une démarche extrêmement importante qui serait tout à fait encourageante pour des gens comme nous qui, si nous sommes devenus européens, nous sommes encore 100% africains. Nous aimons notre pays et nous voulons faire profiter notre pays de l'expérience que nous avons eue là-bas et il n'y a aucune raison d'être exclu. D'ailleurs, comme vous le savez bien, si beaucoup d'entre nous ont adopté une autre nationalité, c'était pour des raisons tout à fait pratiques. En ce qui me concerne, j'ai dû le faire parce que d'abord, c'est vrai, je suis parti tout à fait enfant, donc la Belgique est devenue mon pays, mais aussi parce qu'à un moment donné, j'ai commencé à enseigner à l'école secondaire, et pour être enseignant en Belgique, à l'école secondaire, il faut être belge.
Radio Capine, grand témoin.
Il est professeur de linguistique et de la littérature africaine à l'université de Gand en Belgique. Jean-Go Semzara Kabuta est l'invité de Grand Témoin. En 1981, professeur Jean Kabuta, vous obtenez votre licence spéciale en linguistique africaine. Que dire à ce jour de ces langues de manière générale? Ont-elles tendance à évoluer ou sont-elles en train de disparaître?
Merci. Eh bien, je précise que avant de m'atteler aux langues africaines, j'avais étudié les langues germaniques. Et je pense qu'il est intéressant de savoir qu'à l'époque, l'engouement pour la culture occidentale était tel que, en tout cas pour moi, j'ai essayé de faire ce qu'il y avait de plus occidental. Et il n'y avait rien de tel que le néerlandais, que l'allemand, d'autant plus que pendant ces études, on a étudié des textes en ancien allemand, en ancien en anglais, en anglo-saxon, des choses comme ça, eh bien, j'ai trouvé ça tout à fait passionnant. Cela dit, à un moment donné, et certainement après un excursus à travers la culture orientale qui m'a passionné pendant plusieurs années, à travers cette culture orientale, j'ai retrouvé l'Afrique. C'est à ce moment-là que je me suis attelé aux langues africaines, à la linguistique africaine, en approfondissant particulièrement le Kiswahili et le Chiluba. Eh bien, c'était donc un juste retour à mes propres sources. J'avais marché suffisamment longtemps dans les voies de l'Occident, il m'était désormais important, disons, de revenir à la source.
C'était le retour du fils prodigue.
Oui, absolument. Un retour très heureux parce que je me suis trouvé enrichi de cette culture que j'avais pensé oublier, évidemment, en tant qu'enfant. Et c'était une fascination, ces langues africaines. D'abord, j'ai découvert leur complexité, leur beauté. Alors, je me souviens que souvent, en Belgique, on me posait la question, est-ce qu'il existe une grand-mère en Zaïrois? Est-ce qu'il existe? C'est tellement ridicule, ce genre de question par rapport à la force de ces langues.
Mais les langues africaines aujourd'hui ont-elles tendance à disparaître ou à évoluer d'une certaine manière?
Je ne parlerai pas de disparition, bien qu'il y ait des langues, je dirais pas moins importantes, mais qui sont représentées par moins un nombre plus petit de locuteurs et qui sont menacées et qui disparaissent, bien entendu. Mais il y a des langues africaines, il y a des langues comme nos quatre langues nationales, il y a d'autres langues africaines, je pense au Zulu, je pense au Hausa, au Yoruba, etc., qui sont des langues extrêmement vivantes, extrêmement fortes. Je pense que c'est seulement peut-être au niveau de notre pays que là nous devons faire un immense effort de standardisation, de développement lexical. Et je ne parle pas ici du développement des langues parce qu'elles sont tout à fait développées, il n'y a aucun problème à ce sujet. Mais le vocabulaire doit être adapté pour dire les réalités d'aujourd'hui, pour que ces langues puissent aussi être utilisées dans l'enseignement.
En ce qui concerne la pratique effectivement des langues congolaises, professeur Kabuta, nous avons posé la question au professeur Omer Koutoumissa, un de vos collègues linguistes, que nous avons aussi reçu dans cette émission. Il pense qu'il y a un réel problème de communication dans nos langues. On l'écoute.
Je crois qu'il y a dans le pays un problème de communication. Vous savez que l'interview que nous sommes en train de passer ici ne sera pas suivie par la majorité des Congolais. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils ne maîtrisent pas la langue française. Je ne connais plus un seul journal en langue congolaise. Hein, à l'époque, il y avait le Congo Yassika, il y avait Tete Mbueto, les autres, on avait un journal qui venait de Kisantu, qui était en Kintandu. Aujourd'hui, il n'y a plus un seul journal en langue congolaise. Lorsque vous allez autour des kiosques des journaux, hein, là où on vend les journaux, suivez un petit peu la scène qu'il y a là-bas. Il y a un journal qui est suspendu, qui est en français. Ceux qui sont tout autour parlent tous en lingala. Il y a un qui commente ce qu'il croit avoir compris, parce que j'en ai déjà surpris des gens qui expliquaient autre chose que ce que le journal disait. Vous voyez ce que ça donne.
Réaction, professeur Jean Kabuta. Je vous ai vu plusieurs fois au Chevalier.
Ah oui,
tout à fait. Le professeur Koutoumissé, il a tout à fait raison. Vous savez que par rapport à l'époque coloniale, nous avons accusé un réel recul. Vous savez tout aussi bien que moi que du temps colonial, les langues nationales et les quatre langues étaient utilisées dans l'enseignement primaire jusqu'en sixième primaire. Moi, j'ai fait quelques années d'école primaire ici. Nous avons fait cela en Kiswahili. Et c'était extrêmement intéressant puisque ça nous permettait de nous ancrer d'abord dans ce que nous avions, ce qui relevait de notre culture. Et cela ne nous a pas empêché d'apprendre le français, d'apprendre l'anglais et d'apprendre même le flamand, comme c'est mon cas. Et alors quand on pense aujourd'hui, bientôt 50 ans après l'indépendance, aucune de nos langues nationales n'a le statut de langue officielle. C'est une chose absolument regrettable. Et puis quand on sait aussi qu'au niveau de l'école primaire, les langues nationales n'ont droit de citer que jusqu'en deuxième primaire, je crois, et que après c'est le français que par ailleurs on ne maîtrise pas, vous voyez. Alors on est là vraiment entre deux, les langues françaises non maîtrisées,
les langues nationales non maîtrisées.
C'est-à-dire on est nulle part, c'est-à-dire on ne possède pas un outil de réflexion, parce que vous pensez qu'il faut un outil.
En 1995, vous devenez docteur en linguistique et littérature africaine, nous le disions, dans le cadre de vos multiples travaux, dans le cadre du projet du VLIR UOS, vous avez publié en 2006 sur Internet le dictionnaire Chiluba français. En quoi consistent ces travaux?
Eh bien, ce n'est que l'un des, le premier des travaux que nous envisageons de faire. Donc, le dictionnaire Chiluba français, en Chiluba, qu'on a mis un, qu'on a Chiluba, qu'on a un ça.
Et Yoa.
ce dictionnaire est un travail actualisé, un travail mis à jour, un travail de création. C'est-à-dire qu'en lexicographie, il faut évidemment utiliser tout ce que les prédécesseurs ont offert, ont produit, et le développer. Alors ici, on a fait un très gros effort dans ce dictionnaire, d'abord pour utiliser les méthodes actuelles de lexicographie, parce que les gens qui faisaient des dictionnaires à l'époque, c'était des amateurs. Ils faisaient ça parce qu'ils aimaient la langue, parce qu'ils avaient l'obligation de créer des outils qui leur permettaient de faire l'évangélisation, des choses comme ça. Tandis qu'ici, il s'agit de faire des dictionnaires pour les Africains, pour les Congolais réels, de vrais travaux qui ont les caractères scientifiques requis. Et en l'occurrence, ici, nous avons utilisé le logiciel SwanElex, qui est utilisé aussi en Afrique du Sud pour les 11 langues nationales. Donc, il est désormais aussi utilisé pour nos langues congolaises. Donc, c'est un premier travail d'actualisation, où on fait aussi naturellement un effort de standardisation, en espérant qu'il puisse avoir une large diffusion. C'est la raison pour laquelle on le met sur Internet, pour que chacun puisse l'utiliser, puisse faire ses commentaires. C'est d'ailleurs là l'avantage par rapport à la version papier.
Et pour 2008, vous préparez la publication du dictionnaire Chiluba français encore, mais où en sont les travaux?
Eh bien, on a eu quelques retards. On avait attendu ce dictionnaire pour mon premier voyage. J'étais ici au mois de décembre, janvier, mais il va sortir. Thank you.
Des institutions publiques et privées, responsables des syndicats, acteurs sociaux, découvrez les activités, les fonctions, mais aussi la personnalité de ces hommes et ces femmes qui façonnent la République démocratique du Congo d'aujourd'hui et de demain dans Le Grand Témoin, chaque samedi et chaque dimanche à partir de 7h, heure de Kinshasa.
Vous êtes aussi, professeur Jean Kabuta, initiateur de plusieurs associations. En 1998, vous créez Lugaza Africa, entendez les langues africaines. Pour quelle finalité?
Eh bien, nous avions le souci à ce moment-là de permettre à ceux qui voulaient connaître d'une manière pratique les langues africaines de les étudier. Donc, on voulait créer un lieu où il y ait des cours pratiques de langue. C'est fait que nous avons créé Lugaza Africa en abrégé Lusaf, qui était un lieu où nous avons assuré des cours de Kiswahili, des cours de Chiluba, des cours de Kinyarwanda, de Lingala. En fait, les cours au sein de cette association sont, puisqu'elle existe toujours, sont créés en fonction de la demande. Si demain, il y a des gens qui demandent des cours de Hausa, s'il y a un certain nombre, eh bien, nous nous débrouillons pour les organiser. Cette association se trouve à Bruxelles et il a été animé, bien entendu, par moi, mais aussi par le docteur Ponga et d'autres amis qui étaient tout à fait passionnés et soucieux, en tout cas, de faire connaître la langue et d'aider non seulement les étrangers, les Belges qui voulaient les apprendre, mais aussi nos propres enfants. Vous savez que beaucoup d'enfants en Europe, beaucoup d'enfants congolais n'ont plus l'occasion de parler langue, même si souvent leurs parents parlent langue, mais eux-mêmes, ils les connaissent.
Ils ne s'y intéressent pas.
Alors, c'est assez intéressant de voir que les mêmes parents souhaitent mettre leurs enfants dans une école où ils peuvent apprendre les langues africaines.
En 2005, vous créez ici en RDC le Centre de Développement Communautaire Kassala, ONG dont le but est la promotion de la jeunesse. Quelles sont les actions palpables de cette association ici au pays?
Oui, d'abord, je dois vous dire que si j'ai créé ce centre, c'est parce que pour moi, il était absolument indispensable que, ayant eu, en fin de compte, tout de même pas mal de chance, même si mon enfance a été extrêmement difficile, j'ai eu beaucoup de chance. Alors, je me suis dit, j'ai reçu beaucoup d'instructions, j'ai reçu pas mal de choses, autant faire bénéficier les Congolais de ce que j'ai reçu, autant transmettre aussi une partie de ce que j'ai reçu. Alors, je crée ce centre qui, comme vous l'avez dit, centre de développement communautaire, l'accent étant mis sur le communautaire, c'est-à-dire aller au-delà de la famille, aller au-delà de l'ethnie, parce que ce qui m'intéresse ici, c'est de travailler dans un esprit de solidarité citoyenne, aller au-delà de cet cloisonnement, et ainsi de suite. Alors, ce centre a pour but de faire la promotion de la jeunesse par la formation, par l'information. Vous voyez, l'un de nos problèmes, c'est que nous ne sommes pas informés, nous ne savons pas ce qu'il y a lieu de faire, nous ne savons pas ce qui se passe ailleurs. Donc, il se signifie qu'il faut non seulement être formé, mais aussi être informé. Alors, nous organisons concrètement des séminaires, des formations, des ateliers depuis 3 ans. Et pour ce faire, je fais venir des gens d'Europe, des étudiants, mais aussi des adultes, des gens qui ont une expertise dans un domaine précis, pour venir animer ces travaux ici. Alors, ces gens viennent pour 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, il y en a qui restent 2 mois. Et nous organisons des séminaires sur différents domaines, communication, salubrité, assainissement de l'environnement, langue, et ainsi de suite. Et alors, créativité, ceci me semble absolument fondamental. Il faut stimuler la créativité chez le Congolais, particulièrement chez le jeune, lui donner l'habitude de penser autrement, d'oser poser des questions, de se donner l'audace,
de s'ouvrir.
Voilà, c'est exactement ça.
Mais à votre avis, aujourd'hui, quels sont les problèmes qui se posent à la langue française?
Ah, les problèmes qui se posent à la langue française, c'est peut-être un problème tout à fait naturel. Peut-être que les Français qui m'entendent ne sont pas très heureux. Mais il faut reconnaître que les langues sont des organismes vivants. Il fut une époque où le français était très très fort. Il était parlé dans toutes les diplomaties, et ainsi de suite. À l'heure actuelle, d'autres langues sont en train de prendre leur relais. Et bien, nous devons accepter cela. Le français n'est nullement menacé. Mais je veux dire, il n'a plus la place prépondérante qu'il avait autrefois, et ce n'est rien, ce n'est qu'une évolution normale des choses.
Professeur Kabuta, nous avons contacté quelqu'un qui vous connaît, nous allons lui donner l'occasion de se présenter, la personne est en ligne. Allô, bonjour.
Oui, bonjour.
Pouvez-vous vous présenter au professeur Jean Kabuta? Il a l'air très attentif.
Je m'appelle Gérard Koutouba et je suis le sauveur du professeur Kabuta. Je suis
Gérard Ntumba, nous vous captons un peu mal. Essayez de bouger un peu pour que la ligne puisse s'améliorer. Vous disiez que vous êtes le 4e après le professeur Jean Kabuta. Professeur, vous avez quitté la RDC à 11 ans pour vous installer en Belgique. Et combien de temps après avez-vous retrouvé votre frère Gérard?
Oui, d'abord, je veux dire que je suis tout à fait ému d'entendre mon frère, qui est un garçon tout à fait formidable, qui est certainement l'un dans ce pays-ci qui me donne des raisons d'y revenir par son dynamisme, par son enthousiasme. Et là, c'est une chose extrêmement intéressante. Alors, je veux dire que ce garçon, je l'avais quitté en 1960. Il était bébé. J'étais revenu au Congo pour quelques temps. Et donc, j'ai vu, il venait de naître à peine. Et puis, j'ai eu la joie de le revoir consciemment, en tout cas, 20 ans plus tard. Et je me tenais devant un garçon, il y avait une série de personnes là, et puis il y en avait un qui pleurait. Et alors je m'enquiais pour dire, mais qui est celui-là qui ferme? On dit, mais tu n'as pas reconnu ton frère en tout cas. Et lui, je pense qu'il était tout à fait étonné de me voir là, en réalité, comme une personne vivante, alors qu'il avait toujours entendu parler de mon frère qui était à l'étranger, qui était là-bas en Europe, etc. Donc je suis tout à fait ému de pouvoir communiquer par la voix des ondes avec ce jeune homme tout à fait formidable.
Alors Gérard Ntumba, racontez-nous un peu la première fois que vous avez retrouvé votre frère en 1980, comment cela s'était passé, les retrouvailles?
C'était formidable, c'était vraiment émouvant pour moi. Alors, un jour, nous étions à Lubumbashi, en 1980, avec mes autres frères, mes cousins. Alors, et tout d'un coup, je dis que voilà, il y avait quelqu'un devant vous qui vous cherche. Alors, quand vous êtes, c'est vrai, vous êtes. Donc, bon, le professeur Kabuta a beaucoup de points de ressemblance avec notre oncle et Kabutar. C'est le même cousin qui dit c'est bien Kabuta. Alors, nous, c'est bien que nous sommes tous ici. Les gens qui habitent une planète différente de la vôtre. Alors, vous avez aimé de voir cette place. Mais le festival, ça m'a dit. Je l'ai vu pour la première fois dans le papier, le cahier qu'il a donné, je suis né derrière lui, et dans le reste de l'histoire, il y a un peu de votre père, il y a un peu de vie. Alors, c'est pour la morale de la vie, c'était un peu de vie. Oh, je n'ai toujours comme ça, on devait le voir et le toucher.
Merci beaucoup Gérard Ntumba. Nous avons des petits problèmes avec la liaison téléphonique, mais pour fêter ce retrouvail avec votre frère aîné, le professeur Jean Kabuta, l'équipe de production de Grand Témoin vous dédie à tous la chanson Yahweh de Papa Wemba que nous vous invitons à suivre. Jean Kabuta, vous connaissez cette chanson de Papa Wemba?
Je l'ai entendue, oui, j'ai entendu et j'aime beaucoup.
Et l'artiste, vous connaissez, c'est quelqu'un de votre génération?
Oui, je le connais, oui. Oui, absolument.
Nous tendons vers la fin de cette émission, professeur Kabuta. Un mot pour clôturer cette émission.
Eh bien, pour terminer cette émission, je voudrais saisir cette occasion d'abord pour rappeler que le centre créé ici, il est dirigé par le garçon qu'on vient d'entendre,
Gérard Ntumba,
le responsable du CDC à Kassala, donc Kassala à Kinshasa. Et puis, je voudrais vraiment stimuler la jeunesse au travail, à la remise en question, à l'autocritique, et je compte beaucoup sur elle pour l'avenir de notre pays.
Merci, professeur Kabuta, d'être venu.
Merci aussi de m'avoir accueilli et de m'avoir donné la parole.
Grand témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que nous recevions Django Senzara Kabuta, professeur de linguistique et de la littérature africaine à l'Université de Gand en Belgique. Merci à Guy-Roger Miampala qui a réalisé cette émission et à Jean-Noël Mokondo qui était à la technique. Retrouvez cette émission sur le site de Radio Okapi, www.radiookapi.net, où vous pouvez réécouter toutes les émissions de Grand Témoin. Bonne suite de programme sur Radio Okapi.